la nomination de Robert Sulik à la présidence de la Banque mondiale a une signification très claire. Les États-Unis réaffirment que c'est eux qui décident qui parmi les citoyens des États-Unis sera le président de la Banque mondiale. Et les membres du conseil d'administration, donc les pays européens, le Japon, les pays en développement se soumettent aux décisions des États-Unis.
Vous évoquiez la présidence confiée à un Américain. En même temps, ça fait partie de la tradition. Le FMI, lui, revient aux Européens. C'est la tradition.
Exactement. C'est une tradition tout à fait antidémocratique, détestable, puisqu'il est absolument anormal que depuis 60 ans, deux institutions fondamentales qui sont des agences spécialisées des Nations Unies soient l'une toujours dirigé par un citoyen des États-Unis et l'autre toujours dirigé par un citoyen européen. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu un Africain, un Asiatique, un Latino-Américain pour diriger une telle institution? Ça indique bien qu'il y a là un partage des rôles issus de la Seconde Guerre mondiale et que ce sont des matières dans lesquelles on ne donne absolument pas de place aux principaux concernés. Parce que s'il y a bien les gens qui sont directement concernés par les problèmes de développement, ce sont les populations, les citoyens d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Et les représentants, les citoyens des États-Unis ou d'Europe, en plus ceux qui sont mis à la place, à savoir Zulik pour la Banque mondiale et Rodrigo Rato pour le FMI, n'ont aucune capacité en matière de développement.
Le Brésil notamment a critiqué cette pratique. Comment peut-on finalement obtenir une réforme de ces accords de Bretton Woods?
Personnellement, je pense qu'on n'arrivera pas à modifier la Banque mondiale et le FMI vu les règles de fonctionnement de ces deux institutions. Dans ces deux institutions, la présidence des États-Unis a un droit de veto. Donc, tant qu'on aura une situation où les États-Unis peuvent bloquer tout changement, il n'y aura pas de changement. Donc là, on est dans la quadrature du cercle, c'est pour ça que nous considérons qu'il faut redonner aux Nations Unies une mission de coordination d'instruments de développement. Dans les années 40, début des années 50, il existait un fonds spécial des Nations Unies pour le développement et on pourrait réactiver par exemple ce fonds et articuler à ce fonds des banques régionales de développement contrôlées par les pays du Sud.
Donc vous demandez un peu une remise à plat des accords de Bretton Woods?
En fait, soyons clairs, nous pensons que le bilan de la Banque mondiale et du FMI est tout à fait clair, c'est un bilan d'échec. Et donc nous pensons qu'il faut construire d'autres institutions. Par exemple, nous soutenons tout à fait la construction d'une Banque du Sud telle que l'ont décidé six gouvernements démocratiquement élus d'Amérique latine, donc le gouvernement brésilien, vénézuélien, argentin, bolivien, équatorien et paraguayen, se sont mis d'accord pour lancer une Banque du Sud. C'est un exemple extrêmement intéressant, à savoir les gouvernements du Sud sont en mesure de se doter d'instruments pour le développement de leur peuple. Il s'agit de mettre en commun une partie des réserves de change des pays que je viens de mentionner, et se doter d'un instrument pour garantir la satisfaction des droits humains fondamentaux, un instrument de développement économique dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du renforcement des infrastructures, du secteur productif, dans le cadre d'une réforme agraire et dans le cadre de grands projets de protection de l'environnement.